Todo es la música. Bienvenue sur la Com en Live, l'émission qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui font l'actualité communautaire du consistoire israélien du Bas-Rhin.
Bonjour à tous et bienvenue à notre émission La Com en Live. Une première aujourd'hui pour notre nouvel animateur, le rabbin Ariel Rebibo, qui est avec moi dans le studio. Ariel, bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors voilà, c'est pas mal du tout, hein. On a une nouvelle voix, une nouvelle personnalité. Je suis sûr qu'on va faire un bon duo. J'espère que tu vas arriver à m'embêter autant que le grand rabbin.
Ah non, ça, jamais.
Bon, moi un peu, hein. Il y a une différence entre vous quand même. Je sais que vous êtes tous les deux aussi sympathiques, bien sûr. Mais il y a des petites différences.
Il a fallu mettre le micro à ma taille. Oui.
C'est ça, et puis la barbe a été coupée. Bon, mais je t'en veux pas. Je suis d'accord de quand même animer avec toi et j'espère qu'on va passer une super émission. Alors, je crois qu'on peut lancer la première séquence avec Eric.
Le pro de la semaine.
Andale, andale, andale.
Bonjour, Eric, bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour Monsieur le Rabbin.
Bonjour Eric.
Ah, je crois que Monsieur le Rabbin, tu le connais bien, Ariel.
Oui, je le connais bien, oui.
Comment ça se fait?
Oh, on a eu quelques échanges qui nous ont permis de faire de plus en plus connaissance ensemble, voilà.
Vous croisez alors effectivement Eric, je peux vous le présenter. Eric, c'est notre responsable SPCJ, on peut dire ça comme ça?
Oui, très, tout à fait.
C'est le bon titre?
Oui, c'est le bon titre.
Responsable. Ariel, tu connais Eric depuis longtemps ou pas du tout? Alors.
Ben Eric, on a appris à se connaître récemment, on va dire ces derniers mois. Bon, au départ, évidemment, je le connaissais comme tout le monde chaque fois qu'on rentrait dans la synagogue parce que ben, c'est à lui qu'on a affaire, évidemment, pour tout ce qui est sécurité et puis pour des raisons plus personnelles également, voilà.
Alors en plus, Eric, ça fait un vieux de la vieille de la vie communautaire.
Oui, j'ai pas mal...
Tu as un point commun avec moi, c'est... Le manque de cheveux, l'âge,
ouais,
ça fait quelques années au compteur.
Ouais, quelques années au compteur, ouais, en effet.
Et donc, t'es arrivé il y a quoi, 3 ans, 4 ans?
Alors non, moi ça fait déjà presque 10 ans que je suis dans la structure, en fait, et j'ai pris le poste de responsable du SPCJ en 2020, septembre.
Génial.
2020.
Au milieu, ouais, du Covid, en fait.
Juste après le confinement.
Alors, chers auditeurs, je dois vous dire qu'Ariel et moi, en plus, ça tombe vraiment bien qu'on co-anime aujourd'hui l'émission avec Eric, parce qu'au moment de la crise Covid, quand on était dans la suite de crise, Eric était un des piliers avec nous, côté bénévole.
Oui, tout à fait.
C'est lui qui a fait une des plus grosses travaux de fond, qui nous a structuré le fichier au départ pour les personnes isolées ou qui avaient besoin d'être contactées et qui a recondensé un fichier de 600-700 noms, je pense.
Oui, oui, c'est ça. Ouais,
et après, tu as coordonné l'équipe des téléphonistes.
Oui, exactement.
Ça consistait en quoi, raconte-moi.
Alors, à l'époque du Covid, en fait, du coup, on a mis en place un process qui permet en fait de contacter les gens qui étaient isolés et de répondre à leurs besoins en fonction et de savoir comment est-ce que ça se passait pour eux.
Et ça se faisait avec des professionnels qui appelaient?
Non, c'était pas des professionnels, c'était que des bénévoles de la communauté. On avait fait un appel tout se faisait via Zoom et via Facebook. Et on avait fait un appel de bénévoles et beaucoup de gens ont répondu et se sont inscrits sur la liste pour justement permettre des appels.
Et c'est là qu'on a découvert qu'un kiné pouvait devenir un super coordinateur de bénévoles.
Voilà, exactement.
Parce qu'il faut que sachiez qu'en fin de compte, notre ami Eric a eu une autre vie.
Oui, exactement.
Il était kiné.
Oui, exactement, tout à fait.
Et maintenant, donc, tu as découvert, je crois, cette fibre en fin de compte de l'organisation et l'accompagnement des bénévoles dans la mission communautaire.
Tout à fait. En fait, la période Covid, période confinement, a été une remise en question pour moi et une prise de conscience aussi sur un changement de vie et un changement d'orientation de vie. Et je pense que c'était une autre façon d'aider les gens.
Ouais, c'est génial. Et alors donc aujourd'hui, ta mission, si tu devais la décrire, c'est quoi alors?
La mission aujourd'hui, en tant que responsable du SPCJ, c'est il y a plusieurs choses. Hein. Le SPCJ, c'est pas, comme je dis toujours, comme je l'ai écrit dans l'article des Communières, quelqu'un qui est devant la porte les Shabbats et les fêtes. C'est beaucoup de choses. C'est élever tout d'abord le niveau de sécurité d'une communauté. Et ça comporte aussi bien de la formation de la part des volontaires que de la formation du public. Et la sensibilisation, la formation au niveau des écoles, la formation au niveau des enseignants, bien évidemment, sur tous les aspects de confinement et d'évacuation, mais aussi la sensibilisation à la sécurité. C'est aussi tout ce qui est audit de sécurisation des bâtiments. Et c'est aussi tout l'accompagnement pour l'aide aux victimes.
Ça on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais ça fait un sacré boulot, hein. Ariel.
Moi, j'ai toujours été très impressionné. Vraiment, ici à Strasbourg, mais ailleurs aussi, quand j'ai vu le SPCJ travailler, Ce sont des hommes et des femmes bénévoles, évidemment. Donc tout bénévolat est vraiment mérite tout notre respect. Mais là, se mettre à la disposition des autres à toutes les heures, des enfants, parce que les écoles, c'est toutes les écoles, hein, c'est pas que le bâtiment ici. Hein.
Oui.
C'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment extraordinaire. Il y a vraiment l'idée première qui est je suis intéressé par la vie de l'autre et j'essaie de protéger l'autre avant de me protéger moi.
C'est à votre devise, c'est quoi?
Alors, c'est Keish Echad Belev Echad.
Comment voilà. On pourrait traduire ça?
Alors, comme un seul homme avec un seul cœur.
Ouais, c'est magnifique.
Ouais, ah,
Casquette rabbinique pourrait revenir là.
non, c'est franchement, c'est quelque chose de merveilleux. Moi, quand je les vois à chaque fois, à toutes les heures, hein, depuis très tôt le matin jusqu'à souvent tard le soir, ils sont toujours là. Il y a les entraînements, il y a tout un travail derrière. Donc, bravo, vraiment bravo.
Alors, on parlait des bénévoles. Je crois que pour aussi te voir au quotidien, c'est un vrai travail de plus que de sécurité, mais vraiment, on a toujours l'impression que la sécurité, c'est des grands trucs de. Mais il y a vraiment un travail de passif au sens noble du terme, c'est-à-dire de prévention, de préparation,
oui,
de compréhension.
Il y a
des usagers du bâtiment, des gens qui vivent dans la vie communautaire, plus pour monter le niveau de compréhension du sujet. C'est pas un effet de panique ou de risque comme autrefois. On avait un côté sécuritaire un peu. Moi, j'avais une image quand j'étais un peu de cow-boy, quoi, avec des gars qui faisaient la sécurité. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça.
Non, ça n'a absolument plus rien à voir. Aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des gens qui sont capables de gérer des situations, quelles qu'elles soient, de façon sereine et avec beaucoup de recul pour justement adapter en fonction de la situation, la réponse à la situation.
On pourrait dire que c'est presque une mission de prévention, quoi.
Oui, de toute façon, pour éviter d'arriver à une situation, on va dire, compliquée, pour pas dire dramatique, c'est la prévention qui prévaut. Surtout,
c'est ça.
C'est être capable de pouvoir anticiper une situation et de pouvoir réduire les risques liés à une situation.
Alors, Ariel, on parlait de prévention. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais un des grands trucs aussi de l'équipe du SPCJ, c'est d'organiser des groupes de gens qui veulent justement un peu monter en compétence en termes de prévention. Vous proposez quoi?
Alors, justement, on a mis en place tous les programmes de KMH, donc le Krav Maga pour les hommes. On a mis en place aussi un programme de Krav Maga pour femmes. Et puis, ce qu'on appelle le programme...
C'est pas un programme mixte
Non, il n'y a pas de programme mixte.
Pour les gens qui veulent aller ni chez les hommes, ni chez les femmes.
Ça, on n'a pas prévu celui-là.
Ah ben mince, là, il faut en parler avec certaines personnes.
et on a mis en place aussi un programme qu'on appelle AURA, hein, qui est l'acrostiche de observer, repérer, alerter.
Ouais. Et il y a donc... un petit jeu de mots avec en ivrite, non?
Oui, on pourrait, oui.
Ariel, t'en penses quoi? Il y a un jeu de mots ou pas de jeu de mots?
Le mot aura, c'est la lumière. Ouais,
voilà.
Waouh.
ça donne la lumière, justement, sur ces aspects-là. Et donc, c'est des programmes qu'on fait régulièrement. Pour KMF et KMH, c'est une fois par mois. Et ça permet, c'est ouvert à toute
et
personne.
Et ça tape pas trop dur, c'est-à-dire un petit gars comme moi, un peu beau, fort et musclé.
Non, ça tape pas trop dur, justement.
Tu souris, c'est pas très correct. Franchement, je vais presque me vexer là.
Non, justement.
Toi aussi, tu souris, Eric, arrête.
le niveau est complètement adapté aux personnes. Et il y a tout niveau. Et donc tout le monde vient.
La devise, c'est quoi? Si vous avez envie de vous faire taper, venez au Krav Maga.
Non, si vous voulez acquérir des bons réflexes de sécurité, venez au KMH et au KMF.
Okay.
Voilà, c'est surtout ça.
Et pour les dames, c'est quoi la devise?
Pareil, c'est les bons réflexes de sécurité. Savoir observer, savoir réagir, savoir se mettre à l'abri, savoir éventuellement, dans le cas extrême, se défendre. C'est vraiment l'objectif de KMF.
Mais c'est vrai que ces programmes KMF-KMH, je vois les gens qui ont participé, plus que d'apprendre, souvent on pense que ces programmes où il y a un côté un peu physique des techniques de combat qui sont pas vraiment des combats mais de
Krav Maga, de self-défense,
ouais. Self-défense, voilà, je sais pas dire, mais en fin de compte on se rend compte que c'est plus une acquisition d'une posture, c'est-à-dire de quelqu'un qui est capable de se dire dans une situation de tension comment je réagis.
Exactement.
Des fois la meilleure c'est de partir aussi.
Ouais, tout à fait, et c'est ce qu'on dit aussi, hein. Il y a des situations où il n'y a aucun problème à pouvoir se mettre à l'abri, à pouvoir se mettre justement en bonne condition, pouvoir se mettre à l'abri et pouvoir partir. C'est l'objectif, hein. L'objectif c'est pas du tout de faire des combattants et on n'est pas là pour ça. Et même au niveau des volontaires, ils sont là pour se former constamment. Mais c'est l'idée de savoir avoir les bonnes réactions avec en toute sérénité et pouvoir se mettre...
Je crois qu'Ariel et moi, on va y aller.
Allez, vous êtes.
Moi, j'irai au Krav Maga des femmes ou des hommes. Non, j'irai celui des hommes aussi avec.
Mais tout le monde est le bienvenu. Hein. C'est vraiment ouvert à tout niveau et ça, c'est très très important de le souligner.
Ouais, c'est pas une question de niveau, c'est une question d'intention. En fait, en
tout. Voilà, c'est vraiment une question d'intention. Il n'y a pas de frein ni physique ni en capacité. Tous les niveaux sont les bienvenus. On progresse chacun à son niveau. Et on avance comme ça.
Alors, troisième volet, parce qu'on voit qu'on a eu un sujet autour de la prévention avec la formation, la sensibilisation, un deuxième sujet sur effectivement les bénévoles, et puis un troisième sujet qui est un peu plus délicat, mais qui est, je crois, une mission un peu centrale, historique même, du SPCJ d'année en année depuis longtemps, c'est la partie sur l'aide aux victimes. C'est un savoir-faire qui s'est développé d'année en année à cause de crise, on va dire.
Tout à fait.
Mais comment ça se passe concrètement à Strasbourg par rapport à. Je sais que c'est quelque chose aussi qui est fait au niveau national.
Oui, alors après, il y a une remontée des informations et croisées avec le ministère de l'Intérieur. Ce qui se passe à Strasbourg, c'est que du coup, si on est victime d'un acte antisémite, il y a les appels sur mon numéro de téléphone qui est affiché partout ou sur le numéro central qui est le 0800 18 26 26.
Ok.
Voilà, ça c'est le numéro central. Et donc là, on appelle pour signaler qu'on est victime d'un acte antisémite. Si c'est moi
c'est
direct...
pas pour dire que le chat de gouttière a été brûlé.
Non, pas vraiment. Non. On peut écouter, mais on n'aura pas de réponse obligatoirement. <Okay. adaptée. rire> donc du coup, soit on appelle directement, soit on appelle le central du SPCJ. Et à ce moment-là, il y a tout un accompagnement qui est fait en termes de suivi sur les faits, sur un éventuel dépôt de plainte, sur tous les process qui vont faire l'accompagnement aussi bien s'il y a besoin avec d'un accompagnement social, psychologique par rapport à l'agression.
Et juridique.
Oui, juridique, bien évidemment.
Je parle surtout te connaissant et voyant le travail que vous faites, un travail aussi humain, de soutien.
Oui, tout à fait.
Il y a une prise en compte de la parole de la victime.
Complètement. C'est la première étape. La première étape, c'est d'écouter la victime et de bien cerner ce qui s'est passé et de pouvoir identifier ses ressentis par rapport à l'agression et ensuite d'adapter tout le process d'aide à la victime.
Ok, génial. On arrive un peu au bout de notre interview. Alors... Ariel, c'est quand même une belle rencontre, non?
Moi, j'ai été vraiment très impressionné pendant le Covid, puisque très rapidement, le SPCJ s'est transformé, alors que ce n'était pas du tout sa fonction première. On s'est rendu compte que d'avoir des bénévoles qui sont prêts à tout, parce que c'est ça, ils sont prêts au pire, hein, pour dire les choses très clairement, pour protéger la communauté, a fait que pour une menace qui n'a a priori rien à voir, hein, c'est une menace sanitaire, tout d'un coup, les mêmes hommes, les mêmes femmes étaient entièrement à disposition.
Ouais, c'est clair.
Et ça a permis une rapidité d'intervention et une malléabilité incroyable. C'est-à-dire qu'on avait tout de suite les gens qu'il fallait pour réagir. Et sans eux, je pense qu'on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait. Parce qu'ils ont été
exceptionnels. C'est vrai que c'est impressionnant, Eric, hein, le fait qu'il y ait vraiment un état d'esprit autour de la mission de protéger la communauté et que ça soit une crise X ou une crise sanitaire. La capacité de réagir était en fin de compte la même, avec la même sensibilité.
Exactement. C'est un peu le cœur du SPCJ, c'est être capable de réagir en cas de crise.
En groupe.
En groupe, réagir en tous groupe. Ensemble, ouais. Et d'être capable de réagir en cas de crise. Et là, c'était une crise. Et quelque part, on s'est dit, nous, la crise, on sait gérer.
Alors, je l'ai vu, il y a un élément, on l'a vu avec vous. Il n'y a même pas eu vraiment un temps de réflexion, ça s'est fait d'une espèce de logique et d'une évidence générale.
Exactement, c'est le target, comme je dis, systématiquement pour le SPCJ, c'est être capable de réagir rapidement à une situation de crise, quelle qu'elle soit, et réadapter à la situation.
Et j'insiste avec la force du groupe, parce que je crois que ce sera un peu le mot de conclusion de nous tous, un énorme merci à toute l'équipe de bénévoles qui est autour de toi.
Alors voilà, c'est ça, je tenais vraiment, et je t'en avais parlé déjà en amont.
Tu m'as dit, je viens que si je peux dire un petit mot.
Ouais, voilà, en fait le SPCJ il n'existe que via les bénévoles, il faut en avoir conscience, et je voulais énormément remercier tous les bénévoles et tous les volontaires qui sont là au quotidien, et pour le travail immense qu'ils ont fait aussi durant ces fêtes, mais aussi durant toute l'année, parce qu'ils sont présents et ils prennent du temps sur leur vie de famille, ils prennent du temps sur leur vie professionnelle. On a des gens qui décalent des rendez-vous pour être là à des pros. On a des gens qui prennent des intérimaires pour se faire remplacer, pour venir prendre des pros. Et je pense que c'est hyper important de les remercier et d'avoir conscience que c'est des gens comme vous et moi, mais qui prennent du temps pour eux pour protéger l'autre.
Mais ben, Eric, je crois que c'est le bon mot de la fin. Un grand merci.
Merci,
merci
Ariel,
à toi. Merci.
On enchaîne sur la chronique suivante.
Et news du rabbinat.
Alors, cher ami, on accueille notre ami le rabbin Gad Sebag. Ariel, je crois que tu le connais bien.
Bien sûr, c'est une des meilleures recrues qu'on ait eues.
Attention,
Gad. Tout de suite, les grands superlatifs.
Alors, Gad, et s'il te plaît, c'est pas parce que le grand rabbin n'est pas là que, comment dire, il faut un peu...
Alors, je tiens à préciser, comme je l'ai dit quand je suis rentré, c'est pas parce qu'il y a Eric qui était là que je vais commencer à me tenir correctement. J'ai peur du SPCJ.
Ah, t'as eu peur qu'il se tape.
Ils sont nos collègues, on travaille en amitié.
Maintenant qu'il est parti, tu peux nous raconter, je crois que t'as déjà fait des séances avec lui d'entraînement.
Non, il a trop peur.
Il tape trop fort ou
Il a trop peur.
Ah, il a peur, il a peur de toi.
Moi, je dis à mes élèves que il faut se servir de son poids, de sa force.
Donc, du coup, son intelligence, si vous voulez dire.
C'est ça. Donc du coup, j'ai pas encore eu la chance de faire assez beaucoup d'exercices avec eux, mais ça va venir.
Alors les auditeurs qui ne nous voient pas, qui sachent, Gad est svelte, 1m80.
Blanc aux yeux bleus.
C'est ça. Donc raconte-nous, Gad, les news du rabbin. Alors Ariel, vous connaissez depuis longtemps?
Ben, pas tellement en fait. On se côtoyait avant, mais là c'est depuis qu'il est entré au rabbinat, donc c'est assez récent que vraiment j'ai appris à le découvrir et avec grand plaisir.
Alors je vais raconter une petite histoire quand même. Il y a 20 ans, on était à Beit Vegan.
Il y a des dossiers qui vont sortir.
On était à Beit Vegan à Jérusalem et le beau-frère du Rav Ribibo, c'est un très bon ami avec qui j'ai.
Un des beaux-frères,
voilà, exactement. C'est un ami très proche avec lequel on a fait beaucoup de choses ensemble en Israël.
On ne veut pas savoir.
Et du coup, il avait eu la naissance de sa fille qui vient de se fiancer d'ailleurs, Naomi. Et du coup.
S'il te plaît, un petit Mazal Tov.
Un grand Mazal Tov à Naomi Beros, à ses parents, à ses grands-parents.
Amen.
Et du coup, et je me rappelle qu'on était tous donc des étudiants de sérieux, de yeshiva, de kollel et tout. Et on reçoit donc le rabbin consistorial à Beit Vegan à Jérusalem. On s'est dit. Allez,
ah, qui était quelqu'un qui venait
vacances,
de Thionville.
Voilà, qui venait de Thionville.
Qui s'était perdu à Jérusalem.
On s'est dit, allez, il va nous faire un petit discours. Il va sûrement. On était tous en mode très supérieur. On s'était sentis supérieurs. On s'est dit. Mais attends, qu'est-ce qu'il va nous apprendre à nous, les professionnels de la Torah à Jérusalem? Et on avait tous été bluffés. 20 ans après, Rabbi Ariel, je te rappelle que tu as parlé, je me rappelle encore parfaitement parce que c'était autour de Hanouka. Tu nous avais parlé justement...
De la matzah.
Non, pas du tout. Il nous avait parlé de ces fêtes qui existent dans le monde entier, sur la lumière, dans la lumière pendant les ténèbres, de la...
Je vois bien Ariel parler sur des sujets comme ça, quoi, être en transverso.
Et qui nous avait raconté finalement que la lumière
de
Hanouka...
Parce que vous ne saviez même pas qu'il y avait d'autres fêtes que Hanouka dans le monde.
Ah non, pas du tout, exactement. Mais il nous avait bluffés en nous parlant justement de cette lumière qui vient à Hanouka et qui est éclaire tout l'hiver, ouais. Exactement comme dans plein de civilisations et que ça existe. Et donc ce jour-là, j'avoue, il y a 20 ans, Rabbi Ariel, je me suis dit, finalement, les rabbins du consistoire, ils sont pas...
Et c'est là que tu as eu la vocation.
Et c'est là, 20 ans après, ça a dû germer. Et ça a germé, je suis venu...
C'est énorme. C'est grâce à toi, maintenant c'est grâce... Et c'est comme ça que nous, on subit...
On subit. Bah merci.
Rabbi
exactement.
Gad.
Et oui, subit, c'est moi.
Je sais pas si vous avez entendu les amis auditeurs qu'il appelle Ariel à Rabbi Ariel.
Bien sûr.
C'est très joli.
C'est notre maître à tous. Voilà. On prend exemple de lui dès qu'on peut. Exactement.
Bon, attends, il devait co-animer avec l'émission avec moi.
Laisse
pas faire.
Ariel, laisse un peu de lumière autour de toi, s'il te plaît. Ne prends pas tout.
Bon, et je vois que quand le grand rabbin n'est pas là, quand même, t'es un peu plus détente, j'ai l'impression.
Écoute, non, la vérité, j'adore tous les rabbins et avec tous ceux qui seront à côté de toi, je serai toujours aussi détente.
Oh là là, alors ce qu'il faut dire, c'est vrai, c'est que Gad, t'as une particularité, t'as pas une particularité, c'est vraiment ton trait de caractère. Tu t'entends avec tout le monde, avec la joie et bonne humeur.
Alors, je suis pas sûr que la personne que j'ai enfermée ce matin dans ma cave sera d'accord avec toi.
C'est quoi, t'as enfermé tes gosses dans la cave?
Un seul, juste un seul.
Ariel, qu'est-ce que t'en penses?
Ben, moi je trouve qu'on a une très belle équipe rabbinique où chacun apporte sa particularité et Gad a amené quelque chose vraiment de tout à fait neuf.
Un peps.
Un dynamisme, vraiment quelque chose de très sympathique et un très grand sérieux. C'est qu'on ne se rend pas compte, souvent on croit que les gens souriants derrière ne travaillent pas. C'est un très gros travailleur, Gad. Mais alors, vraiment.
Est-ce que tu penses que le corollaire est juste? Est-ce que les gens qui ne sont pas souriants travaillent, d'après le truc d'Ariel?
Si
les gens...
En tout cas, malheureusement, étant donné qu'on fonctionne dans une société dans laquelle c'est la vitrine qui détermine tout, donc dès qu'on voit qu'une personne, elle est souriante, elle rigole, etc., très souvent, on n'a pas envie de lui donner beaucoup de crédit. Et on suppose que tout ce qui est sagesse vient avec lourdeur et fermeture du visage, etc. Alors qu'en fin de compte, dès qu'on dépasse la vitrine, on peut largement associer les deux. Ouais. Et on peut avoir des gens très, très sages avec toujours un grand sourire. Je racontais à mes élèves hier, justement.
Attends, pourquoi tu as des élèves?
Oui, parce que je suis prof un petit peu à l'école Akiba.
En plus.
Un petit peu, ça m'arrive.
Ah, il faut savoir que c'est pas un prof Akiba, c'est une des stars de l'école Akiba.
vous avez décidé de faire mon horizon funèbre aujourd'hui ou comment ça se passe?
Je vois les élèves. Ah non, ils sont hyper contents. Hein.
Hier, je racontais qu'il y avait un rave qui s'appelle Rav Yechiel Yaakovson qui rentre.
Il existe vraiment?
Oui, il existe vraiment.
Okay.
Et un grand monsieur, il fait 2 mètres de taille, 200 kilos. Il est très fort, ouais. Comme ça, très grand, très impressionnant.
Ariel, puce toi, quoi.
Et quand, ouais, exactement, si je le mets sur mes épaules. Et donc, il rencontrait tous les jours à Beit Vegan, justement, on parlait de Beit Vegan, il rencontrait tous les jours un rave qui s'appelle le Rav Shlomo Zalman Neuerbach.
Il y a que des raves, hein, justement.
Ouais, bah oui. C'est l'un des plus grands rabbinim de la génération précédente. J'invite tous les auditeurs à aller voir une photo du Rav Shlomo Zalman Neuerbach.
Il n'a pas de barbe.
Celui qui n'a pas vu, celui qui trouve une photo dans laquelle il ne sourit pas,
ah.
il a, à mon avis, trouvé une pépite, un visage radieux, souriant. Et c'était l'homme le plus sage de la génération. Un homme qu'on venait voir de par le monde. Il avait un visage radieux. Et donc, tous les jours, cet enfant-là, Rav Yechiel Yaakovson, il passait en tant qu'enfant, il passait devant le Rav Shlomo Zalman Neuerbach. Alors, c'est un nom composé et tout. Et il se disait, un jour, peut-être, j'aurai le droit de lui poser une question. Un jour, peut-être. Et un jour, il pense à voix haute. Et il dit, Rav, j'ai une question. Alors, il s'est dit, bon, j'espère qu'il ne va pas m'entendre. Et le Rav qui entend cette voix fluette qui lui demande « Rav, j'ai une question ». Alors il se tourne vers lui et il lui dit « Oui, t'as une question, mon enfant ?» Il a dit « Ça a été le plus beau jour de ma vie. » Je dansais après à la maison toute ma vie pour raconter cette histoire de cet enfant, ce Rav qui a osé m'écouter. Mais il était radieux. Radieux, un visage. Et pourtant, c'était une sommité incroyable.
Et énorme. Et attends, on se pose tout ce truc. C'était quoi la question?
Ah, la question. Tu veux vraiment la question?
Oui, Ariel, qu'on veut la question.
Mais
quoi,
là, mais avec plaisir. Alors, le problème, c'est qu'il n'avait pas de question. Il n'avait pas de question, ce Rav. Ce Rav n'avait pas de question. Cet enfant n'avait pas de question. Alors, il s'est rappelé que la dernière question qu'il s'était posée, il s'était fait fracasser par son prof. C'était quoi la question?
Ça, c'est un peu le style des profs. Tu sais, tu poses une question qui embête le prof, voilà. C'est que la question est mauvaise.
Alors, c'était quoi la question?
Est-ce que tu fais ça avec tes élèves?
Non, jamais de la vie, moi. Toutes les questions sont bonnes.
Tu les tapes pas?
Non, j'évite. J'essaye d'éviter. Mais des fois, c'est dur. Mais la question qui s'était posée, c'était, il y a marqué dans la Mishnah, « Ratzah Kadosh Baruch Hu Lezakot et Israël ». Hachem a voulu faire du bien au peuple juif. Et pour nous faire du bien, il nous a donné 613 mitzvot. Alors, l'enfant, naturellement, il dit, « S'il voulait vraiment nous faire kiffer, une ou deux auraient largement suffi, on est d'accord
plutôt, ouais.
613, pourquoi 613? Alors, quand il a posé cette question à son prof, le prof l'a fracassé. Il a dit, mais t'as pas honte, mais c'est honteux de parler comme ça, c'est que du bonheur et tout. Et le Rav, il lui dit, c'est une magnifique question. Et il lui dit, je te pose la question, mon cher enfant. Comment est-ce que tu mets ta veste ou ta chemise tous les matins? Et il dit, moi, ma veste, le matin? Eh ben, on m'a appris à l'école qu'il fallait que je mette d'abord la main droite et après la main gauche. Et il dit, ah ouais, très bien. Maintenant, je te pose une question. Quelqu'un qui ne connaît pas Stalacha, comment est-ce qu'il met sa veste? Eh ben, ça se trouve, il la met d'abord à droite et après à gauche. Ouais, on est d'accord. Il y a une chance sur deux, en fait. Hein, il y a deux bras. Donc, il y a une chance sur deux qu'il la mette dans le bon sens ou dans le mauvais sens, entre guillemets. Alors, il dit, tu te rends compte, Dieu, il t'a quand même récompensé si tu l'as mis à droite plutôt qu'à gauche. C'est cadeau. Et il dit, deuxième chose, tu connais un homme qui mange avec les mains crades, sales? Ça n'existe pas. Les hommes, ils se lavent les mains. Et dis-toi, si tu te laves les mains d'une manière un peu spéciale, mais qui change pas grand-chose au monde, d'un coup, on comptabilise une mitzvah. Et dis maintenant, comptabilise, fais le travail. Comptabilise le nombre de mitzvot qui finalement ne changent rien à ta vie. Ne changent rien, c'est ta vie normale. Tu rajoutes un petit truc, un petit folklore, et d'un coup, c'est comptabilisé comme étant une mitzvah. Alors il dit, maintenant sur les 613, combien il t'en reste qui prennent vraiment la tête? Il en reste pas
612.
Beaucoup.
612.
Ouais.
Ariel, il pensait qu'il ne pouvait pas le dire.
Ouais. Non, pas du tout.
Monsieur le rabbin, vous ne pouviez pas, moi.
Et du coup, il lui a dit, voilà pourquoi est-ce que finalement c'est que du bonheur. Parce que finalement, je te récompense.
Tu connais la chanson Que du bonheur?
Non. Je n'ai pas cette chance. Bah, j'irai sur. Toi, tu iras voir la photo de Rav Shlomo Zalman Neuerbach. Et moi, j'irai écouter Que du bonheur.
C'est comme on peut se rencontrer. vrai.
Exactement.
Génial. Franchement, bah, c'est une super histoire. Alors, hey, dans l'histoire, tu devais donner un peu des news du rabbinat. Tu nous as raconté ta histoire. Elle est géniale. Mais attends, la petite question. Oui. Parce que je sais que ce que tu racontes là, c'est vraiment l'état d'esprit que tu portes dans ton kahal, dans ta synagogue, dans ta shoul. Raconte-nous un peu. C'est une shoul qui est particulière, qui est classique, qui est standard, qui est atypique. Et quoi.
On a cette chance de sortir juste des fêtes. Et la vérité, c'est qu'on a eu des fêtes.
La vérité,
on a eu des fêtes à l'Office Weiler qui étaient explosives.
Alors vous êtes un peu spécial, hein. Il faut quand même dire que vous appelez l'Office Weiler, mais dans la salle Noah, parce que vous venez de la salle Weiler, ouais. Et que vous étiez avant l'Office des Jeunes, qui était... ouais. Mais vous êtes maintenant dans la salle des Jeunes, mais vous appelez l'Office Weiler.
Toi, tu mets les pieds dans le plat, tu nous poses le problème de notre vie. Qu'est-ce qu'on est dans la vie ? Un Office des Jeunes, un Office Weiler, un Office...
Noah,
un Office... Alors sur ça, on est un peu schizophrène, mais on le vit très bien. Donc on se fait soigner, donc on le vit très bien.
Collectivement.
Mais, voilà, collectivement, exactement. Mais on a eu un office, on a eu des fêtes de ticherie magnifiques. Vraiment, on a eu une joie incroyable. Et c'est vraiment, d'abord, cette cohabitation de jeunes familles, finalement. On vient tous avec... alors, je sais pas, à Rosh Hashana, j'ai pris la parole et avant le chauffard et j'ai dit, mesdames, messieurs, on a beaucoup d'enfants, grâce à Dieu, et ils vont faire du bruit. Alors, quelle va être la réaction quand il va y avoir du bruit ? Alors, moi, ma réaction, c'est...
On les enferme dans la cave.
Bezrat Hashem, on en est deux fois plus l'année prochaine.
Amen.
Et qu'on ne doit pas faire chut, parce que ça fait beaucoup plus de bruit que l'enfant, qui, une seconde après, va sûrement se taire.
Pas toujours.
Ça va angoisser la mère ou le père qui sont censés s'en occuper et qui vont rentrer dans une angoisse terrible parce que tout le monde leur a fait chute. Et donc, j'ai dit... On prie tous, à chaque fois qu'on entend un enfant faire du bruit pendant le chauffard, on prie tous pour que l'année prochaine, on en ait deux fois plus toute
c'est
la
Kehila.
C'est une belle bracha.
Alors, il faut dire que c'est un office qui a quand même une partie de l'égalité. Bon, déjà, c'est l'office des gros dormeurs, parce que vous commencez le plus tard.
À peine.
Personne n'ose le dire, hiver, mais c'est quand même vrai.
Alors, en hiver, on vient de passer à 9h30 le matin. Ouais,
parce que d'habitude, c'est 10h.
D'habitude, c'est 10h moins quart.
Voilà, quand les autres commencent des fois à 8h moins quart, donc vous voyez bien la différence pour ceux qui ne connaissent pas les horaires. Ouais. Moi, c'est l'heure où j'arrive. Ouais.
Non, bon, alors.
Non, et donc, ça, c'est la première chose. Mais surtout, vous êtes maintenant venu vraiment à un office avec des familles. Ouais. Y a les papas, il y a les mamans. Moi, c'est un truc qui m'impressionne beaucoup parce que souvent, il y a beaucoup de choules où la fréquentation des femmes n'est pas toujours intense à tout l'office. Ils viennent souvent à la fin, par exemple. Et vous avez vraiment une Kehila avec d'hommes et de femmes qui prient ensemble.
Alors, on a la chance d'être à Noah aujourd'hui. Les femmes, elles ont une vraie place où elles entendent bien, elles sont bien installées, etc. Et les enfants, ils ont un peu de place pour se déplacer. Ça, c'est vrai que c'est une chance incroyable. Donc, on a les femmes, on a les enfants qui participent depuis le début de la synagogue. Et ça, c'est une chance incroyable. On leur fait cours avant la tefila pour qu'ils puissent être...
Ah, vous avez un cours avant ?
Avant la tefila, quand même.
À l'aube.
Oui, à l'aube, à 9h, ça va. Mais du coup, c'est...
La chance sympa, donc les enfants viennent avant.
Ouais, et ils participent depuis le début de la tefila, pendant tout au long de la tefila.
Alors, ça, c'est l'une des autres particularités. C'est un office très participatif pour les petits.
Tout à fait, tout à fait.
Qui grandiront.
Exactement.
Avec
grandiront
toi.
Avec nous.
Tu vas grandir encore, tu crois ?
Moi, je vais... Ouais. Non, je pense pas grandir.
Ah, Yael, tu penses quoi ? Qu'on peut encore grandir ?
Peut-être pas physiquement, mais on peut toujours s'élever. Ouais.
Ah, voilà, c'est le rabbin Rabbi.
Voilà, exactement. Et donc, du coup, voilà une ambiance très familiale et beaucoup de traits de famille. C'est-à-dire, on prend en compte toute l'histoire des familles avec leur... Quand on essaye de penser une activité, on la pense... Est-ce qu'elle va parler à nos familles et non pas juste à telle catégorie de notre synagogue, mais on réfléchit pour qu'il y ait une ambiance des familles avec toute la pluralité qui est représentée.
Alors, cette pluralité, on la retrouve aussi dans l'accueil. Vous êtes souvent une des choules où les jeunes étudiants se retrouvent bien, ils trouvent leur place. Moi aussi, à cause un peu de l'horaire, il faut dire, mais c'est vrai qu'il y a une culture qui est un peu l'ADN qui vient de cet esprit de l'Office des Jeunes, d'arriver à intégrer aussi les étudiants qui sont un peu à Strasbourg mais qui connaissent des fois moins la ville, j'ai l'impression.
Tout à fait, on essaie.
C'est ton passif peut-être.
Ouais, c'est possible aussi que ça joue
sur le
passif.
Je vais dire ton passé.
Ouais, mon passé, mon passif aussi, mais parce que c'est des expériences, mais bien entendu tous les jeunes ils sont les bienvenus. Parfois il faut savoir jongler parce qu'un jeune parfois il a pas envie de s'intégrer dans un état d'esprit de famille, donc il faut savoir aussi lui donner une place à part entière. Pour ça, la vérité, c'est qu'on est entouré de... je parle de moi à la troisième personne, mais on est entouré d'un comité qui a énormément d'envie d'accueillir, de faire grandir, de rendre la synagogue très participative. Et ça, c'est une chance incroyable.
Attractive.
est très attractive. Ouais, on essaie.
Génial. Alors, est-ce qu'il y a des activités que vous avez déjà prévues? Il y a un peu un planning? Vous avez des
alors,
dates?
Alors, depuis le début de l'année dernière, on fait une grosse activité par mois. Alors, une grosse activité par mois. On a fait une formation premier secours pour les enfants, spécialement.
Ah, génial.
Alors, nous qui avons pour sauver des enfants, parce que c'est arrivé, en fait, pendant la synagogue, une enfant, elle a eu un peu du mal avec un bamba, donc du coup, ça nous a tous angoissés. Et donc, étant donné qu'on était tous angoissés, donc on a décidé de faire une formation au premier secours. Ensuite, on a fait une formation vie de la famille. Alors, il y en avait une pour... Là, c'était plutôt séparé parce que c'était des questions plus intimes. Donc, il y avait une soirée avec la rabbinite Smerla. Il va y avoir un tome 2. Et une soirée où j'avais fait en binôme avec mon cher ami, le Rav David Lulti. On avait travaillé avec les hommes.
Sympa.
On avait fait une soirée comme ça. On essaye de faire des repas de famille. Là, on était en train d'organiser un Shabbat à l'extérieur. On a très envie de partir tous ensemble à l'extérieur.
Ah, sympa.
Donc, on essaye vraiment une fois par mois de faire un gros événement à notre image, à quelque chose qui nous ressemble, mais à notre image. Ça c'est le côté fixe. Après, cette année, on a décidé de rajouter un peu de Torah. Donc, il y a un cours le mardi soir de Gemara. Il y a le dimanche matin, on a commencé. Maintenant, on n'est plus un office que du Shabbat. Le dimanche matin, on fait une tefila. Alors, à 8h15, parce qu'on doit déposer les enfants à nouveau. Donc, les enfants, c'est une problématique. On doit les déposer dans leurs activités. Donc, du coup, 8h15 pour être libre assez tôt. Mais il y a un cours juste après la tefila, un petit déjeuner et un cours. Et on va commencer bientôt un nouveau cours le jeudi soir, qui sera un peu plus sûrement par quelqu'un d'autre, parce que j'ai envie qu'ils écoutent d'autres voix, exactement. Mais donc, les grosses activités une fois par mois, le Shabbat et les repas familiales, plus ces cours qui se sont agrémentés, on commence à donner un peu de ton comme ça dans la famille et au courant de la semaine, c'est sympa.
Ariel, impressionnant ces petites choules comme ça qui montent.
Toujours. Moi, quand je descends et je vois les gens sortir de Fitzweiler, ils ont toujours le sourire. Je vois les enfants, les adultes. On sent que les gens ont passé un bon moment. Et ça fait plaisir de voir vraiment que les gens sont heureux d'aller prier, sont heureux de se retrouver. Il y a un sentiment de groupe comme ça qui a réussi à se créer. Et je veux vous féliciter. Alors, toute Keïla fonctionne parce qu'il y a les gens qui viennent, mais parce qu'il y a un rabbin derrière et il y a un VAD. Il y a un groupe de personnes qui travaillent. C'est pas compliqué, c'est à la mesure du travail fourni par les membres de cette commission et du rabbinat qu'on voit les résultats. Et donc, il y a un vrai travail derrière, je vais les féliciter pour ça. Quoi.
Alors, franchement, Gad, on pourrait dire convivialité.
Oui,
c'est le mot qui résume un peu ton approche, mais avec sérieux.
Tout à fait, bien sûr.
Que, moi, j'étais impressionné parce que quand tu es arrivé dans l'équipe rabbinique il y a quelques mois, années, ça fait un an et demi.
Deux ans,
ça passe vite. Ouais. Tu étais venu au départ pour une mission plutôt sur la cache-route.
Ouais.
Je me rappelle que tu avais, entre guillemets, imposé d'avoir un cahal en tant que rabbin. Et on voit aujourd'hui comment ça a pris, quoi. Et c'est vraiment intéressant. C'était pas ta fonction première et aujourd'hui, c'est vraiment pour toi, c'est un des piliers de ta mission.
Tout à fait. Bon, à part ça, quand on passe du bon moment avec les personnes qu'on côtoie de manière personnelle, privée, je parle, c'est même plus. On rentre dans l'ordre du privé, je rencontre les personnes.
Là, tu vis avec les familles de ta
chouette. Exactement, tout à fait. Exactement. On vit, on s'invite.
Et ça ne change pas trop parce que c'était pas du tout une chouette. Toi, tu priais, tu avais une chouette. Quand tu étais gamin, tu étais où?
Alors, quand j'étais gamin, j'habitais Créteil.
Mais Créteil,
c'est une autre histoire.
En France?
En France, ouais. Région parisienne, sud-est, tu vois. Région parisienne. Après, j'ai grandi en Israël.
T'étais comment en Israël?
En Israël, j'étais yeshiva plus kollel, 15 ans.
Ah ouais? Et après, t'arrives à Strasbourg?
Après, il y a 10 ans, je suis arrivé à Strasbourg, exactement. Il y a 10 ans, je suis arrivé à Strasbourg. Et là, j'étais dans un endroit où, mais déjà à cette époque-là, je m'étais battu un petit peu avec cet endroit qui avait délaissé les enfants. Et parce que moi, je venais avec mes deux enfants, ils avaient 6 et 7 ans. Donc, du coup, il fallait que quand ils viennent avec leur papa à la choule, pas qu'ils regardent les murs ou les mouches voler. Donc, du coup, j'avais déjà instauré qu'ils aient une forme de participation. Enfants, c'était un peu dur parce que c'était une communauté, non pas vieillissante, mais un peu lourde, un peu lourde comme ça. Et là du coup, c'est le fait que ce soit tellement accepté, aimé, et que les enfants y profitent, alors là, pour moi, c'est un bonheur absolu.
Génial.
Ils nous ont donné l'honneur de donner à mon fils de 13 ans, qui venait de faire sa bar mitzvah, le titre de Khatan Bereshit.
Ah, génial, c'est vrai.
C'était un bonheur absolu de pouvoir le voir évoluer après sa bar mitzvah, encore participer en tant que Khatan Bereshit.
Je crois que c'est une tradition dans une synagogue de donner au dernier bar mitzvah et aux premiers mariés, les mariés bar mitzvah, Khatan Torah, Khatan Bereshit, c'est ça?
C'est possible. Mais
Bar mitzvah, c'est rare. Marié souvent, mais qu'on donne un bar mitzvah, non, c'est assez rare. Parce que c'est quand même
Il faut savoir le faire aussi.
Voilà, et puis il a lu, il a fait un vrai drachat, donc
c'était Khatan Bereshit en plus.
Bereshit.
Ouais, c'est un bon morceau à lire en plus.
Voilà, mais du coup c'était très emblématique parce que alors qu'il commence sa vie, et ben du coup on lui donne la chance de pouvoir commencer le rouleau de la Torah.
Il s'en rappellera toujours.
C'est pas mal.
J'imagine. C'est lui-même qui m'a demandé le Shabbat Bereshit de relire, alors que d'habitude il est plus dans la retenue. Il me dit non, j'ai envie de relire, ça m'a fait plaisir, etc. Donc c'est quelque chose qui va sûrement le marquer.
Gad, je crois qu'on peut te dire un grand merci, passe un super bonjour et un grand bonjour à tous tes amis, tes copains de toutes les familles de l'Office Weiler.
Avec
si
plaisir.
Vous êtes auditeur, si vous avez cherché un endroit sympa pour prier le Shabbat matin tranquille, vous venez comme vous êtes et vous repartirez un peu plus comblé, rendez-vous à 10h, vous pouvez venir à midi moins 5.
Ouais, exactement. mais la dernière phrase que tu as dit, elle était très bien, venez comme vous êtes, vraiment. On est d'abord, il y a des personnes dans notre cale qui sont très accueillants, qui viennent accueillir.
Ouais.
Ça veut dire quand quelqu'un rentre et qu'on ne le connaît pas, il y a forcément une voire deux personnes qui vont se lever pour le placer, pour lui donner un talit, pour lui donner un sidour. Donc venez comme vous êtes et vous serez accueillis les bras ouverts, souvent avec un grand sourire. Et à midi moins 5, il y aura même sûrement un petit verre de schnapps ou de whisky.
Génial.
Donc ça c'est le plus.
À bientôt.
À très bientôt.
Shabbat shalom. Shabbat shalom. On passe à la chronique suivante. Stéphane, qu'est-ce que t'as ? Salut Stéphane, alors on est avec Ariel, on est super content de te retrouver. Stéphane, c'est quoi les news ?
Eh ben, hello les amis, les news, on a passé une semaine assez enrichissante parce qu'on a eu le plaisir d'accueillir dimanche dernier deux groupes d'Allemands, des étudiants qui sont venus visiter notre belle ville de Strasbourg et qui sont passés forcément par le consistoire pour visiter la synagogue. Et on a pu partager avec des étudiants strasbourgeois aussi un petit repas, donc c'était plutôt sympa. Et
en allemand, en français, en anglais, espagnol?
En allemand, en russe et en hébreu, tu vois.
Ah ouais, alors pourquoi c'était des jeunes Allemands? Raconte-nous un peu, les jeunes Allemands, ils ont des origines, une partie qui est d'origine russophone, une partie d'origine russophone, c'est ça?
Comme je dirais, tous les Allemands juifs, il y a 75% de Russes, de Juifs russes en Allemagne, donc effectivement, il y avait plus de la moitié des jeunes juifs qui étaient d'origine russe et donc qui parlaient russe.
Ouais, ils venaient d'où?
Donc ils venaient de Hanovre.
Hanovre, sympa.
Et Nuremberg. Il y avait, je crois, Hanovre et Nuremberg, plus dans le style. Il y avait deux groupes, et ça fait du people, parce que le premier groupe était une trentaine, et le deuxième groupe une bonne 80 à peu près.
Ah ouais.
Donc ça permet d'avoir un petit échange et de leur montrer également notre communauté.
Ariel, je te sens hyper étonné.
Ah ouais, c'était quel âge à peu près?
C'était entre 15 et 20 ans, à peu près.
Alors, je sais pas si tu sais, mais la communauté juive allemande aujourd'hui est une communauté juive renaissante.
Oui, bien sûr.
Qui est une des plus.
Grâce aux Russes, justement.
Ouais, justement.
Non, j'ai
et aux Israéliens qui sont beaucoup. Alors, Berlin, entre autres, est en train de devenir une des grandes villes de communauté juive en Europe par l'arrivée des Russes et des Russes.
J'ai visité le nouveau séminaire de Berlin.
Ouais.
Très impressionnant, vraiment, avec une grande qualité d'enseignement. Ouais.
Et alors, Stéphane, donc, ces deux groupes-là, vous leur avez fait visiter, vous avez eu des discussions avec eux, c'était un bon moment d'échange, j'imagine.
C'est ça, et puis on avait fait venir également on avait fait venir le VIEF, on avait fait venir également la Team Project, donc ils ont pu échanger, puisqu'on a la chance d'avoir Natacha Hubelet qui est bilingue allemand, puisqu'elle fait ses études en Allemagne,
ah oui, c'est
la présidente de le VIEF, et donc elle a pu échanger et leur expliquer un petit peu la vie juive à Strasbourg et comment ça se passe chez nous, voilà, tout simplement.
Génial.
Donc, c'est sympa.
Et alors, à part ça, je crois que hier, il y avait une conférence qui a bien fonctionné, non?
Alors, il y avait la conférence de Madame Naudufour, Frédéric Naudufour, qui a sorti son premier roman. Et c'était un bon moment de partage, effectivement.
J'imagine
bon
que tu l'as lu en détail, le roman.
De culture. Moi, pas encore, mais ça va venir certainement.
C'est une BD ou c'est un roman?
Non, c'est un roman.
Ah bon?
Ouais, j'y viendrai.
T'inquiète, hein, moi je lis que les BD. Alors Stéphane, raconte-nous. Ariel rigole parce que je sens que c'est quoi ces illettrés là qui regardent que des images.
Non, j'ai quand même lu le livre en entier de notre précédent
conférencière.
voilà, qui était venu, et de Jonathan Chetrit d'ailleurs, sur Toulouse, c'était un récit assez émouvant et impressionnant.
À la prochaine conférence, je crois que c'est fin novembre, c'est ça ?
Le 17 novembre, si je ne dis pas de bêtises, avec Jacob Roginski, je ne sais pas si je le dis correctement ou pas, Ariel pourra me corriger.
Je crois que c'est Roginski.
C'est un philosophe qui va nous parler de Moshe, qui a sorti un livre sur Moshe, alors...
Moïse, ouais.
C'est marrant parce qu'on m'a dit hier soir, mais t'es sûr, tu vas le faire venir au confesseur parce que c'est un peu provoque et tout. Je dis, moi j'assume, il n'y a pas de problème, il en faut pour tout le monde. Donc c'est un peu philosophe et il aura un échange avec Lady Frankel. Et voilà, ça sera un moment de culture très sympa, mais surtout, il y aura aussi un autre moment de culture. Bon, je vous l'annonce en off, il y aura un moment de culture aussi très sympa, ce sera le 7 décembre. Puisqu'on aura la chance de faire venir on aura un one-man show au consistoire avec Jonathan Azria, qui est un humoriste juif parisien et qui viendra nous présenter son spectacle le 7 décembre au consistoire.
Sympa.
Ben, c'est bien.
Voilà.
Alors là, à très court terme, les prochaines activités, c'est quoi la semaine prochaine? Je crois qu'il y a un des gros trucs qui s'annonce, c'est le Shabbat Project.
C'est ça. Il y a le Shabbat Project qui arrive très vite. Alors on a.
C'est quoi la date?
Le 10-11, le Shabbat vendredi 11, alors c'est un week-end qui est férié, donc personne ne peut pas venir. Et je crois qu'on a essayé de travailler sur un projet qui sera plutôt d'envergure, puisqu'on a quand même 10 activités qui auront lieu dans ce cadre du Shabbat Project. Entre autres, on aura évidemment la Khalabeik, mais cette fois-ci elle sera un peu différente de d'habitude, puisqu'on va y rajouter un atelier art de la table. Où on va présenter aux dames de la communauté la possibilité de décorer et d'aménager sa table de Shabbat de façon optimum. Et après, on aura donc les repas le mercredi soir, donc à la Khalabeik. Le jeudi soir, on aura deux soirées, une jeunesse pour les 12-17 ans avec confection de pizza avec Moshe Dadouche. Et une soirée aussi le jeudi soir, mais soirée étudiante pour les 18-32 ans avec barbecue, bar éphémère et jeux de société.
Sympa.
Le vendredi, on aura un office commun, évidemment, comme d'habitude, puis suivi d'un repas communautaire avec la participation du docteur Alain Toledano, qui est une éminence dans le domaine de la cancérologie en France, et qui nous fait l'honneur de venir à Strasbourg pour nous parler de Shabbat et de son métier. Et on aura également un repas parallèle aussi au consistoire qui intégrera toutes les associations étudiantes de Strasbourg, que ce soit l'UEJF, que ce soit la Team Project, que ce soit la GIMU, que ce soit Regech, que ce soit également l'ORT. Ils viendront tous profiter d'un repas au consistoire dans le cadre de ce Shabbat Project. On aura également la Théoda Shlichit, comme d'habitude, avec également Alain Doledano, et on aura de la partie... le samedi soir, sous forme de grand convite à la grande choule, avec notre ami Avi Wayon.
Waouh, génial, avec Avi en plus, sympa.
Voilà.
Alors un kumzit, juste explique-nous pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi, ça consiste. Alors
je crois kumzit, on va inviter tous les gens qui savent jouer d'un instrument à venir sur la scène et jouer d'un instrument pour faire un grand concert avec différents instruments et ça va être très sympa.
C'est cool, ça.
Et puis on aura une dernière activité qu'on va faire conjointement avec l'école Yehuda à Lévis, puisque je leur ai demandé, avec l'accord du directeur de Kodesh Shaul Spingarn, de confectionner une centaine de paniers avec Nerot, boule de Chala,
Shabbat Box.
Une petite Shabbat Box qu'on offrira à des gens qui sont loin de Shabbat, pour leur faire découvrir ce que le Shabbat. Voilà.
Sympa, disons, c'est un sacré programme.
Programme.
Est-ce que toi, il y a une activité en particulier sur laquelle tu as un petit truc qui te plaît plus qu'une autre, que tu as construit ou que tu as imaginé, que tu aimerais vraiment qu'elle...
Alors, je ne suis pas neutre parce que je suis un peu à l'élaboration du projet, donc je ne peux pas dire plus une que l'autre.
C'est le bar éphémère.
Mais en réalité, on a travaillé conjointement avec les différents interlocuteurs. J'ai rencontré l'ensemble des associations étudiantes de Strasbourg. On a mis en place et leur repas shabbatique et cette soirée de barbecue et de bar éphémère ensemble. Et on a travaillé avec Mme Smerla sur la Khalabeik pour qu'elle ait un peu un changement par rapport aux habitudes qu'on avait jusque-là. Donc on lui a donné une nouvelle forme qui, j'espère, sera novatrice et dynamique.
Là, c'est toujours difficile d'un événement qui a lieu depuis des années de créer une dynamique un peu de renouveau tout en gardant les attentes.
Voilà, ça reste le Shabbat Project. On a des attentes précises. C'est pas nous qui l'inventons. C'est le rabbin sud-africain qui a bien lancé la trame.
Stéphane, peut-être juste des précisions à nos auditeurs. Le concept même du Shabbat Project, qu'on n'a pas parlé au départ, c'est un Shabbat mondial. Ouvert, quoi, en fin de compte, qui est de découverte et d'ouverture de la communauté, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Et puis, comme dit, on va le rendre le plus attractif possible et viser un public de toute catégorie, de tout âge, puisqu'il y aura vraiment des activités pour tout le monde, pour tous les âges, pour toutes les personnes. Donc, un moment de partage et un moment où on découvre, pour certains, ou bien on découvre sa communauté. Si on a envie de la découvrir, évidemment, parce qu'on ne peut pas forcer les gens à venir s'ils ne le souhaitent pas.
Je crois que Stéphane, c'est aussi un moment pour des gens qui, des fois, on a l'impression un peu comme des activités sportives ou des activités culturelles, qui est un début d'année, qu'on démarre quelque chose. Des gens qui se disent, tiens, cette année, j'ai envie de fréquenter un peu plus une synagogue ou la vie communautaire sans aller à la synagogue, mais de voir. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des activités très variées entre la synagogue ou pas la synagogue. Et c'est un moment de rentrer dans l'année, on va dire, dans le cycle scolaire ou dans le cycle juif. Pour les gens qui veulent comme ça démarrer quelque chose avec la communauté, c'est ça ?
C'est clair. Après, ça reste un Shabbat, donc moi, j'aime pas trop dénaturer l'idée du Shabbat. C'est-à-dire que ça reste un Shabbat, donc effectivement, ça reste le Shabbat. Donc effectivement, on va faire plein d'activités autour du Shabbat, mais effectivement...
Ouais, l'état d'esprit, c'est celui-là, c'est Shabbat, quoi.
L'état d'esprit, c'est du Shabbat, c'est évident. Voilà.
Ariel, après, je crois que Shabbat, je sais que l'idée quand même d'un rabbin, quand on parle de Shabbat, tu en penses que ce Shabbat Project, c'est quelque chose qui te parle, toi ?
Ah, bien sûr, évidemment. C'est, alors, les rabbins vous diront toujours, le Shabbat Project, c'est toutes les semaines. Donc, évidemment, c'est pas une fois dans l'année. Mais ça vaut la peine, une fois dans l'année, de porter, on va dire, le focus dessus pour qu'on ait envie de venir ensuite tous les Shabbats. Et le fait que la communauté propose des activités aussi variées, c'est une façon, en même temps, de faire connaître la communauté de ce qu'elle peut proposer pour qu'ensuite on continue à venir durant le reste de l'année.
Alors, c'est vrai que Shabbat, il y a une symbolique aussi assez importante de séparation entre le profane et le sacré ou le Kodesh.
Alors, séparation, c'est tout à fait juste, hein, il y a une vraie séparation, mais en même temps, il y a une façon d'élever le profane grâce au Shabbat. C'est-à-dire que parce que je fais Shabbat une fois dans la semaine, c'est toute ma semaine et mon activité de la semaine qui...
Ah, ça, je sais que c'est intégrant au sujet d'études de Limoud, d'études.
Alors, je suis heureux d'apprendre qu'on invite le docteur Toledano. Alain Toledano est connu, hein, c'est un grand cancérologue en France, hein, qui est connu pour faire ce qu'on appelle la médecine intégrative. Et donc, ça vaut la peine de venir le rencontrer. Le principe de la médecine intégrative, pour faire très simple, c'est de ne pas regarder la pathologie ou le symptôme, mais de regarder l'individu de manière totale. Et donc, observer la personne dans son ensemble. Et bien, c'est un petit peu ça l'idée, hein, c'est-à-dire l'idée de faire venir un médecin ou de faire venir d'autres fois un artiste, etc., c'est de montrer qu'on peut très bien vivre son judaïsme, respecter son Shabbat complètement et en même temps être quelqu'un de très intégral dans la société et que les choses ne sont pas contradictoires. Donc, comme je disais tout à l'heure, le Shabbat, c'est une séparation du reste de la semaine, mais ça permet d'élever toute la semaine. Et que je suis sûr, quand on l'écoutera, on comprendra que pour lui, sa médecine, son travail, etc., et son Shabbat, c'est pas des choses finalement complètement différentes et que ça va ensemble.
Alors, je crois qu'en plus, faut t'entendre sans parler de ce sujet-là. Il y a une question, on pense souvent que Shabbat, c'est le septième jour, mais je crois que quelque chose que toi, tu essaies de dire aussi, c'est que c'est le début de la semaine suivante, en fait.
Alors, non, moi je dis c'est le milieu de la semaine. Shabbat, c'est comme quelque chose qui irradie. Il y a des rayons.
Avant, après,
parce qu'une partie de la semaine, on se prépare à Shabbat, et l'autre partie de la semaine, on profite encore du Shabbat qui est passé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est au centre. C'est une idée très chère au Maharal de Prague, qui dit que l'élément qui vient après, c'est l'élément central.
Donc
c'est André Neher a beaucoup insisté là-dessus, le fameux Emtsa, c'est-à-dire le chiffre 5, le cinquième c'est le milieu des 4 et le 7 c'est le milieu des 6. Voilà.
Bon là je crois qu'il faut Ariel que tu reviennes en tant qu'invité pour nous faire un petit chiffre là-dessus, un petit coup là-dessus.
Voilà, en tout cas, je suis étonné de tout ce qui est fait. Hein. Il y en a pour tous les goûts et merci Stéphane de proposer autant de choses.
Voilà. Alors sans rentrer dans les polémiques qu'on entend souvent, mais justement pour aussi ne pas hésiter à en parler, il n'y a pas de question de mixité, c'est-à-dire que ces activités en fonction, la Halabrek c'est plutôt destiné pour un public féminin, mais après il y a des activités qui sont mixtes, des activités qui sont non mixtes, il y a pour tous les publics, c'est ça ?
C'est ça, et puis voilà, on a parlé de plagiat, moi je vais vous parler encore juste de 2 secondes et après je vous laisse
ouais,
de deux choses qui vont arriver rapidement, puisqu'on va On va changer d'heure la semaine prochaine, et donc comme on avait intégré la semaine dernière, on avait fait chaque mois une soirée à thème au consistoire pour tout public. Et ben, on recommencera cette soirée à thème très prochainement, le Shabbat soir. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour Hanouka, évidemment, qui va arriver aussi très vite, on a relancé l'opération. Toute l'année dernière, on avait fait l'opération 500 cadeaux pour 500 enfants.
Là, c'est 5000.
Cette année, on relance l'opération, mais ça sera pas 500 cadeaux, ça sera 613 cadeaux.
Ah, c'est joli.
Pour 613 enfants, voilà.
Génial. Stéphane, c'est de bonnes nouvelles. On se reparle la semaine prochaine pour nous donner un peu, tenir au courant de ces différents projets, des soirées à thème, les soirées conférences en semaine, les différentes activités de Shabbat et les programmes autour des fêtes. Franchement, Steph, un grand coup de chapeau. Et à très bientôt, Sally, on passe à la chronique suivante. Alors, on a une émission un peu spéciale cette semaine parce qu'en fin de compte, on a pris le temps avec chacun. Vous avez vu qu'on n'a que 3 invités, on n'a pas eu de la bénévole de la semaine parce qu'on a pris le temps et on aura la semaine prochaine sûrement, on retrouvera notre rythme habituel. Alors, Ariel, je disais justement que cette transition, c'est un sujet assez important. Tu me parlais du Maral de Prague. Je crois que c'est un peu l'idée générale aussi de cette émission, qu'on voit, c'est pas une fin en soi chaque activité. Et Stéphane, on voit, il y a une continuité après. Toi, dans ton rôle d'animateur, comment c'était alors ces missions ?
Moi, je découvre, hein, je suis encore un peu timide. Hein. Et puis, je crois que le grand m'a fait très, très, très bien le travail, donc je lui remettrai le micro après.
Non, tu reviendras ?
Avec plaisir, on a invité.
Tu feras avec moi ton temps l'émission quand même, j'espère.
Hein. Ouais, non, c'était toujours un plaisir. Non, qu'on ait ce contact avec l'ensemble de la communauté par ce billet-là, je trouve ça super.
Super. Eh bien, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. On se dit un grand Shabbat Shalom à tout le monde.
Voilà, et puis qu'on puisse vous voir de visu voilà, dans nos synagogues et dans toutes les activités.
On vous attend tous nombreux. À très, très bientôt.
À très bientôt.
Et j'espère voir mon ami Harold, le grand rabbin Harold Weil, à la prochaine émission.
Hola, Omer. ¿Qué tal, amigo?
1, 2, 3, dale.
Todo es la música.